Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce jeudi 6 janvier, la flambée de l'épidémie de coronavirus un peu partout dans le monde, record mondial aux États-Unis, record quotidien en France, première en Italie et l'Australie qui annonce de nouvelles mesures. On fera un tour d'horizon dès le début de ce journal. L'exécutif français à l'assaut des non-vaccinés, Emmanuel Macron qui dit vouloir les emmerder jusqu'au bout, je cite, Jean Castex qui les accuse de fracturer la nation et les parlementaires vent debout contre le pass vaccinal à l'étude en ce moment, rien ne va plus en politique. Et en sport, les derniers rebondissements du dossier Novak Djokovic Open d'Australie. Après être arrivé à l'aéroport de Melbourne, le numéro 1 mondial doit finalement quitter le territoire. Pourquoi ? Toutes les explications dans le journal des sports de Jean-Noël Ducasse. Et on commence ce journal par la pression sur les systèmes de santé australiens à cause du Covid-19, bien sûr. Vous l'avez probablement vu dans la rue, ces interminables files d'attente pour se faire tester, ou alors en magasin, les tests antigéniques introuvables puisque pris d'assaut immédiatement après le réassort. Eh bien, sachez que le cabinet national a finalement accepté de multiples modifications pour alléger la pression, le but étant de réduire le nombre de tests PCR réalisés chaque jour. Alors, parmi ces changements, la suppression du test PCR justement pour confirmer un test antigénique positif ou encore la livraison prochaine de tests rapides gratuits. On écoute le Premier ministre Scott Morrison.
We're moving away from PCR tests and we're getting further advice from that from the Chief Medical Officer next week. These point of care tests can also be administered at testing sites themselves. So you will find yourself in the course of the next couple of weeks, they'll be transitioning where you'll be either be getting a rapid antigen test provided at that site, and you'll get your result there and then, within 15 minutes. You won't have to wait for the test results to come back from the lab. This will take the pressure off the pathology labs.
Le Premier ministre qui promet la livraison de 200 millions de tests rapides antigéniques d'ici 2 mois. Alors, après, quand on voit les chiffres de contamination en Australie, on se demande bien comment la pression va pouvoir retomber sur les laboratoires de dépistage. L'état le plus impacté est sans surprise aujourd'hui encore le New South Wales. Plus de 111 000 tests y ont été réalisés hier. 34 994 nouveaux cas enregistrés. On écoute le premier, Dominique Perrottet, à propos des tests justement.
There is no dollar figure that we will not put on the table to ensure as we move through this next phase, rapid antigen tests are available to anybody right across the state who needs one.
Dans le Victoria, deuxième état le plus impacté, près de 22 000 nouvelles personnes malades en une journée. Et dans le Queensland, c'est un décès et plus de 10 000 cas recensés, un record absolu pour cet état jusque-là épargné par l'épidémie. Toujours sur le front de l'épidémie de coronavirus, ce sinistre record, celui battu par les États-Unis depuis le tout début, depuis mars 2020, plus d'un million de nouveaux cas en une seule journée. Alors, selon le docteur Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, la hausse du nombre de cas suit une courbe presque verticale. Il prévient également que le pic de contamination n'est pas encore atteint aux États-Unis et c'est surtout chez les jeunes que la situation inquiète. La correspondance à Washington de Guillaume Nodin.
C'est le conseiller médical en chef du président Biden, le docteur Anthony Fauci, qui le dit lui-même. La courbe du nombre de cas aux États-Unis est pratiquement verticale. Plus d'un million ont été rapportés rien que lundi. Il y a probablement un effet de rattrapage après le week-end du Nouvel An et il faut donc le prendre avec précaution. Mais la moyenne quotidienne sur les 7 derniers jours approche désormais le demi-million. Le variant Omicron représente désormais plus de 90% des nouvelles infections et réinfections. Si le nombre de morts baisse depuis une semaine, les hospitalisations, elles, sont aussi à la hausse, particulièrement chez les jeunes enfants pour lesquels un quadruplement est observé. Les différentes autorités cherchent la meilleure réponse, notamment en multipliant les tests. Plus de 3000 écoles dans le pays ont différé la rentrée de janvier ou repris par des cours à distance. Ce n'est pas le cas de toutes. Le nouveau maire de New York, Eric Adams, a en revanche décidé de laisser les écoles ouvertes. Pour lui, c'est l'endroit où les enfants sont le plus en sécurité, avec notamment l'obligation de porter un masque. Les autorités sanitaires ont par ailleurs lancé le processus pour autoriser les doses de rappel dès l'âge de 12 ans contre 16 ans auparavant. Pour l'administration, la vaccination et la troisième dose restent les meilleures protections contre la progression fulgurante du variant Omicron.
Dans ce contexte, Joe Biden a décidé de doubler la commande du traitement anti-Covid du laboratoire Pfizer. Vous savez, cette pilule que les Américains peuvent avaler dès l'apparition des premiers symptômes. Sarah Rosenblum est chercheuse en santé publique et en sciences politiques à l'Université du Michigan. Pour elle, il y a surtout un grand absent dans les mesures du gouvernement américain. Écoutez.
Cette réponse fédérale, elle insiste sur l'intensification de la vaccination, la diffusion des tests, la mise au point d'un traitement antiviral. Par contre, les dispositifs d'aide sociale qui ont permis à beaucoup d'Américains de subsister tant bien que mal ces deux dernières années, hein, qui ont été mis en place par l'administration Trump comme l'administration Biden, des chèques envoyés aux Américains, l'augmentation des allocations chômage, la création de programmes de congés maladie payés qui n'existaient pas avant, tous ces dispositifs ont expiré ces dernières semaines et ils n'ont pas été reconduits par l'administration Biden. Ce qui signifie qu'en fait, les Américains entame cette nouvelle année dans une situation de plus grande vulnérabilité socio-économique, alors que la situation sanitaire s'aggrave, et ça c'est un choix délibéré de l'administration Biden qui interroge un petit peu. Je pense que en raison de la difficulté qu'a rencontrée l'administration Biden à faire voter un certain nombre de projets de loi ces derniers mois, je pense qu'il s'est dit qu'il allait se heurter un certain nombre d'obstacles politiques, qu'il allait peut-être pas être en mesure d'obtenir le renouvellement de ses programmes, et que la manière la plus simple de prévenir la diffusion de l'épidémie, c'était de mettre l'accent sur la vaccination, sur les tests et sur des mesures individuelles plutôt que des grands dispositifs d'aide sociale qui avaient été privilégiés ces dernières années. Oui.
Au-delà de l'Australie et des États-Unis, les contaminations dues au Covid-19 se multiplient presque partout dans le monde en ce moment. C'est le cas également en France, avec aussi un record pour l'Hexagone, plus de 332 000 nouveaux cas en 24 heures. Alors pour en arriver à ces résultats positifs, les gens vont se faire tester bien sûr. Et ces tests ont un coût pour la sécurité sociale, 1 million d'euros pour le seul mois de décembre, selon le quotidien économique français Les Échos, Myriam Berber.
Avec l'arrivée du nouveau variant Omicron, les Français se testent massivement, avec un record au mois de décembre, 1 million de tests PCR ou antigéniques par jour. Sur ces 30 millions de tests en décembre, 28 millions ont été remboursés par la Sécurité sociale. La France est en effet un des pays qui rembourse totalement ces tests, sauf pour les non-vaccinés. Résultat, la note s'annonce très élevée pour le gouvernement. Selon des informations du quotidien Les Échos, la prise en charge à 100% par la Sécurité sociale devrait coûter 1 milliard d'euros pour le seul mois de décembre. Et pourtant, le coût moyen du test a baissé, 36 euros aujourd'hui contre 61 euros auparavant. Pour faire des économies, l'assurance maladie a également diminué les honoraires des libéraux de santé pour chaque dépistage réalisé. Pour le mois de janvier, on prévoit un volume de tests quotidiens supérieur à 1 million. À ce rythme-là, le gouvernement va vite dépenser l'enveloppe de 6 milliards d'euros prévue à cet effet pour l'ensemble de l'année.
On reste en France et on ouvre le volet politique. Il avait pourtant promis de ne plus céder à la tentation des petites phrases. C'est raté. Emmanuel Macron a signé l'une de ses sorties les plus polémiques depuis le début de son quinquennat. C'était mardi, lors d'un échange avec les lecteurs du quotidien français Le Parisien. 2 minutes sur 2h15 d'interview. 2 minutes pendant lesquelles le chef de l'État a déclaré vouloir emmerder, je cite, jusqu'au bout les non-vaccinés. C'est ça la stratégie. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Des propos qui, bien sûr, ont immédiatement soulevé une vague d'indignation dans les rangs de l'opposition et notamment chez les candidats à l'élection présidentielle, Aurélien de Vernois.
Inouï, scandaleux, consternant, cynique, cruel, les candidats à l'élection présidentielle ne manquent pas d'adjectifs pour condamner les propos d'Emmanuel Macron, à l'image de Marine Le Pen.
Pas les contraintes, ça a été le choix du président, donc maintenant non seulement il les contraint, mais en plus il les insulte. Il est garant de la cohésion nationale. Et il a oublié cela, et en faisant cela, il commet non seulement une faute politique, mais une faute morale.
Un faux pas dans lequel comptent bien s'engouffrer les rivaux du chef de l'État, Valérie Pécresse, candidate de la droite.
Il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris. Je veux y mettre fin. Je suis d'ailleurs la seule à pouvoir en terminer avec un président qui visiblement ne supporte plus les Français quand ils ne pensent pas comme lui.
Du côté de la majorité, on fait front. Pas question de se désolidariser de la parole présidentielle, même si certains, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ne semblent pas particulièrement convaincus par la forme.
Moi je comprends assez bien cette idée. Là il s'est exprimé de façon familière, je pense que tout le monde a compris ce qu'il voulait entendre. Écoutez, c'est lui qui dira s'il le regrette ou s'il le regrette pas, mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'on a compris ce qu'il voulait dire.
La polémique risque toutefois de peser sur la loi instaurant le pass vaccinal. Censé entrer en vigueur le 15 janvier, le texte a de nouveau été malmené hier soir à l'Assemblée nationale et il doit encore passer les écueils du Sénat et du Conseil constitutionnel.
Alors après la charge du président français, celle du Premier ministre. À son tour, Jean Castex accuse les 10% de Français non vaccinés de fracturer la nation. Le chef du gouvernement s'est adressé aux parlementaires pour défendre le projet de loi du gouvernement sur le pass vaccinal, Pierre-Olivier.
En début d'après-midi, le chef de file de la droite sénatoriale, Bruno Retailleau, est le premier à ouvrir le feu des commentaires assassins.
Ces mots-là, c'est pas un dérapage de plus, c'est un outrage de trop.
Devant des sénateurs déchaînés, Jean Castex persiste, signe et maintient le cap.
Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, nous ne cessons de le dire, nous avons une difficulté avec celles et ceux de nos concitoyens qui ne sont pas vaccinés. Les propos du président de la République s'inscrivent en parfaite cohérence avec ce que nous faisons, c'est-à-dire pousser à la vaccination.
Un peu plus tard, nouveau front pour Jean Castex, cette fois devant les députés, pas franchement plus convaincu par le Premier ministre comme Mathilde Panot, députée insoumise.
Ce n'est pas seulement les non-vaccinés que vous emmerdez. Vous emmerdez le peuple français tout entier. Lorsque vous supprimez des lits à l'hôpital public, vous n'êtes pas, monsieur le Premier ministre, le porte-parole des vaccinés. Et j'ai bien l'intention que dans 95 jours, ce président de la République arrête d'emmerder les Français.
C'est finalement dans le calme que les débats sur le pass vaccinal se poursuivront à l'Assemblée. Opération déminage une fois de plus, assurée par Jean Castex.
Et sachez qu'entre deux suspensions de séance, les députés ont relevé à 16 ans l'obligation de présenter un pass vaccinal pour les activités extra et périscolaires. Alors, c'est dans ce contexte de hausse des cas et de fortes tensions que l'état d'urgence sanitaire a été décrété dans plusieurs territoires d'outre-mer. La mesure était déjà en vigueur depuis le 27 décembre à La Réunion et en Martinique. Elle est étendue désormais à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane et la Guadeloupe. Dans ce dernier département, seuls 40% de la population a reçu une première dose de vaccin. Et en Guadeloupe, justement, une manifestation contre l'obligation vaccinale des soignants a dégénéré. Gérard Cotellon, le directeur du CHU et deux de ses adjoints, ont dû être exfiltrés après avoir été pris à partie par des manifestants. Il témoigne au micro de Radio France Internationale.
Je suis à ma sixième plainte pour menace de mort. Donc après les menaces de mort, c'est le passage à l'acte. Hein. Mon bureau a été caillassé il y a 3 semaines. Bien entendu, il faut porter plainte. On peut pas laisser passer ce genre de choses. Je veux dire, faut pas s'habituer à ça. Il faut que cet hôpital soit sanctuarisé. Il faut protéger l'hôpital, il faut protéger les personnels. Les médecins sont maltraités, les médecins voient les pneus de leur voiture régulièrement crevés. L'objectif, c'est de créer une situation de chaos. Et donc, moi, je dis, c'est pas normal que sur un territoire de la République, l'hôpital qui est un lieu de paix où on prend en charge des gens qui sont vulnérables, qui sont fragiles, qu'on ne puisse pas faire ça en toute sérénité. Et si nous en sommes là, c'est aussi parce que depuis 30 ans, on a fermé les yeux sur ce genre de choses. Et donc, ce sentiment d'impunité qui réside dans ce CHU, n'a plus lieu d'être. Moi, en tout cas, ce ne sont ni les menaces de mort, ni les intimidations qui me feront renoncer à ma mission. Tant que je serai en Guadeloupe, je ne changerai pas de posture, je serai toujours sur notre éthique hospitalière qui veut que dans un hôpital, il y a des règles et puis tout doit être fait pour prendre en charge les patients.
Et en bref, l'Italie devient le premier pays à instaurer l'obligation vaccinale pour les personnes de plus de 50 ans. Cette nouvelle mesure concerne donc 28 millions d'Italiens. Toujours en France, le volet judiciaire et avec cette première, la justice autorise une action de groupe contre le laboratoire médical Sanofi dans le dossier de la Dépakine. La Dépakine, ce médicament contre l'épilepsie qui, lorsqu'il est ingéré par une femme enceinte, peut provoquer chez l'enfant à naître des malformations et des troubles du développement. Des milliers d'enfants ont été touchés en France. Le tribunal judiciaire de Paris a donc reconnu la responsabilité de Sanofi. Explication signée Valérie Cohen.
Le laboratoire Sanofi a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d'information. Tels sont les termes du tribunal. La responsabilité de l'entreprise pharmaceutique est donc établie et c'est une avancée importante pour l'association de familles de victimes qui a initié cette action de groupe il y a 4 ans. Cependant, pour elle, un point du jugement est particulièrement problématique. La période pendant laquelle la responsabilité du laboratoire est engagée, 2001-2006, sur les troubles neurodéveloppementaux. Or, pour l'association, ce risque était connu dès les années 1980 et le manque d'informations a persisté au-delà de 2006. Le laboratoire Sanofi, de son côté, assure avoir toujours été, je cite, « transparent ». Il a annoncé son intention de faire appel. Le jugement n'est donc pas définitif. Il faudra que la décision soit confirmée pour que l'action de groupe puisse effectivement s'ouvrir et qu'ainsi le sujet des réparations soit examiné.
On part au Kazakhstan où Internet et connexions mobiles sont toujours coupées en ce moment. L'état d'urgence a été décrété sur tout le territoire après les violentes manifestations qui secouent le pays. En cause au départ la flambée des prix du carburant. La résidence présidentielle ainsi que la mairie de la capitale économique Almaty ont été incendiées. Le président Kassym Jomart Tokayev promet une réponse ferme. On l'écoute.
I will deliver new proposals on the political transformation of Kazakhstan soon. I will stand for sustainable reforms. I particularly would like to thank law enforcement agents and military personnel. They took the bullets of the militant groups and unfortunately suffered casualties.
Pour préciser les propos du président, pour l'heure, c'est 8 membres des forces de l'ordre qui sont décédés dans les violences. La Russie voisine vient d'annoncer l'envoi d'une aide militaire. Et Kassym Jomart Tokayev a également annoncé prendre la tête du Conseil de sécurité, ce qui signifie que l'ancien président, Nursultan Nazarbayev, 81 ans, n'est plus au pouvoir. Les explications de Résis Janté.
Si ce 5 janvier 2022 pourrait bien entrer dans l'histoire du Kazakhstan, ce n'est pas seulement parce que le pays semble quasi hors de contrôle des autorités ce mercredi soir, mais c'est aussi peut-être qu'en cette folle journée, la page Nazarbayev s'est définitivement tournée. Dans l'après-midi, le président Kassym Jomart Tokayev annonçait à l'occasion d'une allocution solennelle qu'il dirigeait désormais seul le Conseil de sécurité. Or, le dit Conseil est depuis près de 3 ans le vrai centre du pouvoir au Kazakhstan. En effet, lorsqu'en mars 2019, Nursultan Nazarbayev a décidé d'abandonner le fauteuil de chef de l'État qu'il occupait depuis 1991. Il a en réalité gardé l'essentiel des attributs présidentiels en tant que chef du Conseil de sécurité. Ainsi, en va-t-il dans les régimes autoritaires où l'autocrate ne peut quasi jamais quitter le pouvoir en réalité. Ce mercredi après-midi, celui qui s'était fait officiellement nommer El-Bassi, chef de la nation, a peut-être définitivement abandonné les rênes du pays sous la pression de la rue qui depuis plusieurs jours criait Chalket, vieil homme, va-t'en.
Un coup d'œil sur votre météo de ce jeudi. Soleil et 34 degrés à Perth, pluie et seulement 23 degrés à Adélaïde. Comptez 29 à Melbourne, 19 à Hobart. Il va pleuvoir à Canberra, 25 degrés. Pareil à Sydney et à Brisbane, 28 degrés. Nuageux, mais 36 degrés à Cairns, attention aux UV. Et enfin, pluie et 33 degrés à Darwin. Le rappel des principaux titres de l'actualité. L'Australie qui revoit la réglementation concernant les tests PCR et antigéniques. L'objectif est d'alléger la pression sur les laboratoires de dépistage. Emmanuel Macron qui met le feu aux poudres avec ses propos polémiques. « Je veux emmerder les non-vaccinés », dit le chef de l'État. Et le Kazakhstan en sang et en flammes. Des violentes manifestations ont causé la mort de 8 membres des forces de l'ordre. L'état d'urgence a été décrété.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.